L'interview de Radio Arménie.
Brigitte Leloir-Kerakian pour Radio Arménie.
Bonjour Lorraine Tobalian-Bensaïd, d'être sur les ondes de Radio Arménie avec Brigitte Leloir-Kerakian. Je suis dans Escale Culture. Je suis très heureuse de vous rencontrer. J'ai été particulièrement attirée par le fait que vous allez bientôt exposer à Paris vos miniatures d'inspiration persane. Donc s'il vous plaît, donnez-nous les détails de ce futur projet d'exposition.
Oui, bonjour Brigitte, je vous remercie de m'accueillir. L'exposition, c'est en effet une exposition collective de miniatures persanes. Nous avons créé une association pour rendre hommage à un professeur de miniatures, un grand maître iranien, franco-iranien, qui est venu vivre en France dans les années 70, qui était peintre, sculpteur, miniaturiste. Il faisait à la fois la peinture sur toile, sur châssis, on va dire, et la miniature persane, qui est quand même une particularité d'avoir gardé un travail très traditionnel. Et aussi, il a aussi développé un travail de peinture, on va dire, peinture contemporaine, peinture à huile, technique mixte. Et il est décédé en 2020, et avec son épouse Shiva et quelques anciens élèves, en fait, une association a été créée. Elle vient de naître. Et on a eu la chance d'être sélectionné par le Sénat pour une exposition au Jardin du Luxembourg fin août, début septembre, exactement du 24 août au 4 septembre. Et l'exposition s'intitule « La miniature persane au Jardin du Luxembourg ». La localisation exacte, c'est le pavillon d'Avion. C'est un charmant pavillon, voilà, dans lequel il y a en hiver des cours d'horticulture, et à partir du printemps jusqu'en septembre, bien en fait différentes expositions de peinture, enfin d'art en général. Et nous sommes honorés d'exposer aux côtés de ses œuvres à lui. Il y aura certaines de ses miniatures persanes, et on est 8-9 en plus, enfin anciens élèves, à exposer des miniatures. Il y a aussi des produits dérivés, des reproductions, mais ça sera vraiment miniature persane.
Donc Laurine, comment êtes-vous venue à la miniature persane avec cette tradition très orientale? Parce que vous avez une formation académique en France, entre guillemets, classique.
Oui, tout à fait. Alors j'ai toujours dessiné, et j'ai commencé, enfin après le lycée, disons, j'ai fait de l'histoire de l'art. J'ai toujours dessiné, mais je ne me sentais pas légitime, enfin je ne me sentais pas capable, entre guillemets, de présenter une école d'art. Mais je faisais la miniature persane, c'est-à-dire j'ai fait une maîtrise d'histoire de l'art après le bac, et en parallèle je faisais de la miniature persane. C'est une amie, une ancienne prof de français avec qui j'étais amie, on était vraiment devenus amies, qui m'avait donné une brochure d'activités culturelles sur Paris, parce que j'avais dit que je voulais faire quelque chose du modelage, du dessin, enfin je voulais vraiment faire un loisir artistique. J'ai toujours dessiné. Et dans la brochure, c'était des cours qui s'appelaient l'ADAC à l'époque, c'est devenu Paris Atelier. Et il y avait, parmi tous les intitulés de cours, il y avait un cours qui s'appelait Miniature Persane. Et je savais ce que c'était parce que j'avais des disques de musique indienne ou persane. Et souvent, les couvertures d'albums, c'est souvent des miniatures anciennes, classiques. Je savais que c'était ça, la miniature persane. Et je me suis dit, waouh, ça va me plaire, quoi. Et j'ai commencé à 18 ans, alors que j'étais étudiante en histoire de l'art, en théorie en fait. Et j'ai gardé la pratique. Ensuite, j'ai préparé une année un concours d'entrée aux écoles d'art de Paris. Je voulais essayer les arts déco et les beaux-arts. Et ça a marché aux beaux-arts. Et pendant les années des beaux-arts, je n'ai pas fait de miniature. En fait, ce n'était pas très, très bien vu. La miniature... À l'époque où j'ai fait les Beaux-Arts, c'était très contemporain, ça l'est encore, mais avec un discours vraiment... Ils attendent d'un discours conceptuel d'art contemporain. Donc faire de la peinture figurative, c'était déjà difficile. Mais alors de la miniature persane, c'est comme si j'avais fait des icônes ou de la tapisserie, ou vraiment quelque chose de très, très, très poussiéreux presque. Alors que je considère que la miniature en Inde, en Iran et en Arménie aussi, elle a un aspect très moderne, enfin dans la composition, dans les couleurs. Pour moi, il y a une modernité. On peut faire des choses très, très contemporaines, en fait, avec la miniature.
Dites-nous l'étymologie du mot miniature, s'il vous plaît.
Oui, miniature, ce n'est pas peindre petit, ce n'est pas minuscule, mais ça vient de miniare en latin, qui signifie peindre avec du minium. Le minium, c'était l'oxyde de cuivre le clip de fer qui servait à faire la couleur rouge, qu'on peut acheter encore. Elle est vendue, enfin, le pigment est vendu sur des sites spécialisés, j'en achète. C'est un orange magnifique, un orange fluo un peu, qui est toxique, donc il faut prendre... On vous explique que si vous embroyez, il faut mettre un masque. Bon, j'embroie dans des petites quantités. Mais lorsque vous voyez, enfin, dans les miniatures anciennes, dans les vitrines des musées, les oranges flashy, on va dire presque fluo, c'est systématiquement du minium. Et c'est vrai qu'en apprenant que, miniature venait de minaret, je me suis dit, en fait, on peut faire des grandes miniatures. C'est pas minuscule, quoi. C'est pas la même origine. Et pour mon beaux-arts, pour mon diplôme des beaux-arts, pardon, j'avais fait du coup un panoramique. Enfin, pour le diplôme, il fallait faire bien sûr quelque chose de personnel. Et je voulais m'approprier un peu la technique. Je me suis dit, on peut faire quelque chose de... On peut passer un diplôme des beaux-arts aujourd'hui à Paris avec de la miniature, pourquoi pas. Et j'ai peint à la gouache, à l'aquarelle, avec des tubes achetés en magasin de fourniture d'art. Ça aurait été difficile de peindre 11 mètres de fresque avec des pigments naturels, mais pourquoi pas. C'est vrai que là, en fait, dans les nouvelles miniatures, je fais le choix d'utiliser des pigments que j'achète pour l'éclat de leur couleur, en me disant, après tout, si vraiment faire de la miniature, c'est utiliser les pigments et la gomme arabique. On peut déjà se cantonner à l'aspect technique et après faire des scènes contemporaines, quoi.
Est-ce qu'on peut donner quelques, comment dire, cadres ou lignes directrices de la miniature? Qu'est-ce qui définit une miniature?
Bon, alors c'est vrai que c'est une peinture de manuscrit. Miniature, c'est nous, en France, on désigne la miniature persane, mais les Iraniens ne disent pas miniature, ils disent peinture, il me semble, comme s'il n'y avait pas d'autre peinture que la miniature. Après, lorsque, je crois que ce sont les Hollandais qui ont voyagé en Iran et qui ont apporté des gravures, enfin, la miniature a changé, ils ont introduit la perspective, et je pense qu'ils sont arrivés aussi à la peinture. À l'époque Qadjar, au 19e siècle, il y a une peinture de chevalet, on va dire, c'est-à-dire qu'ils peignent sur des toiles, comme en Europe, avec des thèmes orientaux que j'aime beaucoup personnellement. Ça, il y a des modelés, il y a des clairs-obscurs, mais avec parfois un aspect qui peut être un petit peu, qui peut un peu manquer de profondeur. Parce que ça ne va pas être de la peinture occidentale comme on l'entend avec des perspectives incroyables occidentales, mais qui, moi, me touche énormément. La peinture du 19e siècle, la peinture Qadjar, j'adore. Ça peut être très sombre, mais j'aime beaucoup. Les personnages sont assez hiératiques. Il peut y avoir une raideur, comme dans les personnages des miniatures, mais ils sont passés à une peinture de chevalet. Sinon, la miniature, en Europe, en Arménie, en Inde, en Iran, c'est une peinture de manuscrit. C'est-à-dire qu'elle sert à illustrer des livres. En fait, je ne pense pas que la miniature existe sans un texte, quoi. En Iran, c'était les épopées.
Oui.
Le Shahnameh, le livre des rois, la poésie soufie. Rumi, enfin, c'est toute cette littérature, en Inde aussi, et en Arménie, enfin, de ce que je connais, alors certainement des choses ont dû disparaître, c'est beaucoup les Bibles illustrées.
Tout à fait.
Mais j'imagine que peut-être que des choses ont disparu, des planches de médecine, de botanique, peut-être qu'il y avait des études d'insectes, enfin, comme on a en Europe, c'est possible. Hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup de miniatures arméniennes, enfin, les Bibles, les représentations du baptême du Christ, l'entrée du Christ à Jérusalem, enfin, ça va être ces thèmes-là. Mm-hmm. Et il y a aussi les commanditaires qui se représentent dans les miniatures arméniennes, ça c'est très beau. Des familles féodales, quoi, je suppose qu'elles devaient passer commande au peintre pour se représenter en compagnie dans un épisode de la Bible, quoi, pratiquement. Mm-hmm. Ça c'est très beau. En Iran, c'est vraiment... Il y a aussi une différence, c'est vrai qu'en Inde, on va dire que c'est un peu l'art du portrait. La peinture moghole, c'est déjà l'empereur qui demande à se faire représenter, à se faire tirer le portrait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va quand même l'identifier dans l'image. Mais chez les persans, c'est aussi intéressant, je trouve, d'un point de vue même spirituel. C'est-à-dire que homme-femme se ressemble, même un peu. Enfin, j'ai l'impression qu'un visage... masculin, ça peut être juste un visage féminin auquel on ajoute de la barbe et un turban différent. Mais les personnages sont très stéréotypés. Il n'y a pas vraiment de notion d'âge non plus. Enfin, il y a des visages de vieillards, mais c'est un petit peu représenter l'essence des choses, l'idée d'un arbre, l'idée d'un... Oui, c'est à la fois figuratif, mais il y a une dimension, je trouve, très spirituel en fait, comme si on représentait, on ne pouvait pas atteindre l'essence des choses, enfin, c'est particulier. C'est pas un portrait, c'est des personnages qui vont peut-être représenter un monde idéal, paradisiaque. Il y a une sorte de beauté parfaite qui est intéressante, quoi.
Oui, ouais. C'est vrai que dans ces cadres, hein, souvent c'est dans un
oui,
cadre.
Oui, tout à fait.
On sent qu'il y a cette idéalisation, que les personnages sont
bien
un
sûr.
Petit peu coupés d'un monde réel,
bien
trop
sûr.
Pragmatique.
Bien sûr. Il n'y a pas d'ombre ni de lumière.
Voilà.
Voilà, c'est tout est, même une scène de nuit va être éclairée dans son ensemble de la même façon. Alors après, il y a des techniques de pointillés, de petits pointillés, de petits... des petits traits qu'on va faire au pinceau très fin qui vont faire un modelé sur un visage, sur des végétaux. On n'est pas obligé de les faire, mais les Indiens aussi font ça. Ça va traduire un modelé qui peut être traduit dans la peinture occidentale par la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, elle a permis le passage tous les clairs obscurs. C'est l'huile qui a vraiment facilité ce passage de l'ombre à la lumière ou bien du modelé des couleurs. Mais sinon, évidemment, c'est vrai qu'il y a une représentation d'un monde parfait, idéal, qu'on voit dans les tapis aussi. Je crois que dans un tapis, le tapis représente aussi la voûte céleste, enfin un jardin d'Éden, quelque chose d'idéal. L'enluminure aussi, l'enluminure qui accompagne les marges des manuscrits, elle est parfaitement réalisée, même si on n'y arrive pas. Enfin, il y a un travail technique, mais il y a quand même l'idée de représenter... Enfin, un ouvrage parfaitement réalisé. Ouais. Mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que moi, je suis touchée par des miniatures anciennes archaïques. C'est pas les plus belles, c'est pas l'âge d'or de la miniature, mais elles me touchent par une forme de mystère, quoi. C'est très émouvant.
Mais ce
n'est pas les plus belles pages, quoi.
Ce que j'allais dire, ce que vous décrivez, on sent que cet art s'interpénètre dans différentes régions,
bien
dont
sûr.
L'Arménie,
bien
mais
sûr.
Pas que l'Arménie.
Bien sûr.
Évidemment, la Perse.
Oui. En Europe, il y a eu les Berizers du duc de Berry, c'est de la miniature. C'est la même technique, en fait. Ce sont des pigments d'origine, enfin à l'époque médiévale, végétale, minérale, animale. D'ailleurs, en Arménie, c'est la cochenille, hein, c'est un petit insecte. Et je pense que le pigment arménien de cochenille, c'est, il doit être d'avoir une couleur éclatante, vraiment éclatante. Mais la technique, c'est ça. Pigment lié à la gomme arabique, c'est très simple la recette, c'est vraiment une petite mayonnaise, on s'habitue à le faire, sur du papier, et voilà, c'est ça.
Et donc vous allez faire un travail particulier en vue de cette exposition fin août?
J'ai déjà beaucoup de choses. Il y aura des tirages d'art aussi vendus. Je pense que je vais un petit peu sélectionner des images que je peux proposer en beau tirage d'art sur papier professionnel. Là, c'est mon imprimeur qui fait ça de façon professionnelle. C'est des tirages qui sont vendus en série limitée avec un certificat d'authenticité. C'est aussi une petite œuvre d'art. C'est pas une simple photocopie.
D'accord.
Et je pense que la plupart des artistes, en plus des œuvres originales, vendront des produits dérivés.
Donc, Laurine Topalian Ben Saïd, vous ne faites pas que de la miniature, vous avez aussi plein de cordes à votre arc. Donc, parlez-nous aussi de vos autres travaux, en particulier dans le domaine de l'illustration, de livres de contes. Et certains de nos auditeurs ont peut-être déjà vu votre travail, mais pour ceux qui l'ont oublié, il y a de disponible par exemple ce livre qui s'appelle Mon ami Topal
Toumanian.
On a un trésor de la littérature arménienne, et donc dans ce recueil, vous avez fait des illustrations.
Oui. Après les Beaux-Arts, en fait, les premiers travaux de commande ont été pour l'édition jeunesse. En fait, on m'avait conseillé d'aller... C'est aussi un petit peu la miniature qui m'a amenée à l'illustration, parce qu'une amie m'avait conseillé d'aller au Salon du Livre Jeunesse, là où les éditeurs sont présents et les auteurs. J'avais pas du tout le rêve de faire de l'illustration, mais en voyant mes miniatures, elle m'avait dit... ça peut intéresser pour des livres de contes orientaux, c'est sûr.
Bien sûr.
Et il se trouve que j'ai montré quelques miniatures à un éditeur qui m'a rappelé 3 mois après pour Les Mille et Une Nuits.
Ah, magnifique.
Alors, ils avaient déjà le projet. En fait, j'arrivais vraiment au bon moment, parce que je pense que ça faisait un an qu'ils étaient sur le projet des Mille et Une Nuits. J'amène des miniatures persanes. Pour un éditeur qui souhaite conserver une image de tradition orientale, ça collait bien. Et c'était le premier livre aux éditions de la Martinière Jeunesse. C'était du noir et blanc, c'était intéressant parce que, alors c'était pas de la miniature traditionnelle, il y avait énormément de dessins, mais il y avait du fait que les dessins étaient en noir et blanc, c'était plus du contour que des aplats en couleur, et la miniature c'est avant tout un travail de contour, et après on va colorier, je vais dire, mais c'est quand même le dessin qui prime. Donc ça, c'était les Mille et une nuits en illustration. Et il y a eu ensuite quelques autres livres. Il y avait un beau livre illustré vraiment avec les miniatures persanes. C'était le Prince Tisserand en 2007. Il a été primé. On a eu le prix Saint-Exupéry. Du coup, il a été réédité l'année d'après avec un accompagné d'un pliage, d'un petit théâtre en papier. Parce que je faisais des choses comme ça aux Beaux-Arts d'après la miniature. Toujours pour réfléchir sur le volume dans la miniature, comment donner une profondeur à une peinture qui est vraiment qui est en deux dimensions, mais qui représente un monde bidimensionnel. Et le tout dernier livre, oui, c'est mon ami Toumagnan, qui a quelques années déjà, mais il a été réédité en 2021. Et là, c'est un recueil, poèmes, balades et contes, de Vanès Toumagnan, illustré avec des aquarelles. Alors là, c'est pas du tout de la miniature, c'est du dessin figuratif, dessin et aquarelle. Parce que c'est vrai qu'au Beaux-Arts, bon, je faisais la miniature un peu en cachette, un peu de mon côté, en dehors de la dernière année où j'ai vraiment choisi d'en faire mon diplôme. Mais j'avais un travail très figuratif, très classique, on va dire. Je dessine ce que j'ai sous les yeux de façon classique. En vacances, je vais prendre un carnet de voyage, une petite boîte d'aquarelle. J'ai un travail très traditionnel, en fait, à la main.
Et quand vous avez travaillé sur ce projet de mon ami Toumagnan, vous étiez en dialogue avec la personne qui a restitué les textes, qui a fait les traductions des textes.
Voilà, en fait, c'est un éditeur qui m'a rencontré sur un salon du livre et qui m'a proposé le projet en disant aussi qu'on irait en Arménie l'exposer. Ça, c'est vrai que je l'ai pas pris très au sérieux. Et pourtant, on est allé en Arménie. Les dessins ont été exposés au musée Toumagnan à Yerevan. C'était vraiment, on est allé à l'université française. C'était vraiment sympa. Il y avait aussi les journées Toumagnan, donc des enfants faisaient des spectacles. On a visité sa maison. C'était super. Et le livre est vendu. J'aimerais qu'il soit traduit en anglais, mais c'est vrai qu'il est vendu au musée de Yerevan pour les francophones. Et j'ai rencontré en effet la femme qui a traduit. C'était vraiment son projet que de traduire des textes inédits de cet auteur, quoi. Oui. Ouais, mais c'est la première fois en tout cas que je travaillais sur un thème arménien. Et oui, ça m'a donné plein d'envie. En Arménie, j'ai dessiné d'ailleurs, j'avais un carnet de voyage. Et il y a un projet que j'ai terminé que je souhaite publier à présent sur toute une série sur l'Arménie. Ça, c'est un projet personnel, je vous en parlerai peut-être à l'avenir. Mais c'est fini, maintenant je cherche un éditeur pour ça.
L'Arménie, c'est toujours très inspirant. Ouais, enfin, c'est tellement visuellement incroyable, avec des lumières magnifiques. Des paysages particuliers. Oui. Donc oui, pour n'importe quel artiste, c'est une source sans fin d'inspiration.
Oui, j'avais mon carnet.
Et vous avez envie de faire des aquarelles avec...
Alors en fait, j'ai fait 300 images. En tout cas, il y a 290 images. Mais j'ai travaillé plusieurs années dessus. C'est vraiment un gros travail. Là-bas, sur place, j'avais deux petits carnets. Donc je m'étais dit, je me promenais. Je ne suis pas restée très longtemps non plus. C'est-à-dire que si j'étais restée 6 mois, j'aurais pu me dire, on publie un facsimilé, la totalité du carnet, tel que je l'avais dans mon sac, même avec les tâches, avec les annotations, ça pouvait être très beau comme ça. En rentrant du voyage, c'était assez maigre malgré tout, il y avait beaucoup de dessins, mais il n'y avait pas vraiment de fil conducteur, mais j'avais pris beaucoup de photos. Et j'ai commencé à travailler d'après les photos, à faire des peintures beaucoup plus longuement travaillées, recomposées, sur toile. J'avais acheté des cartes postales. En fait, c'est devenu beaucoup plus personnel. J'ai acheté des cartes postales de portraits de femmes arméniennes des différentes régions d'Anatolie. Et j'en ai fait des grands portraits à la gouache. Bon, après, ça s'est vraiment développé. J'ai quand même, il fallait organiser toutes ces images. Et donc, mon plan s'est modifié. C'était plus le carnet de voyage sur l'Arménie d'aujourd'hui, mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est même en bilingue. En fait, c'est français-anglais et j'ai vraiment le souhait de le publier tel qu'en bilingue, enfin, le présenter à la fois, j'espère, au Canada, États-Unis, je ne sais pas, et France, bien sûr. Mais je mets un point d'honneur à garder le texte, les deux langues du texte, parce que c'est aussi la langue de la diaspora, l'anglais, enfin, de toutes les diasporas.
Oui.
Et au début, je pensais même le faire qu'en anglais. Et une prof d'anglais qui a relu les textes, c'était dommage de faire quand. Enfin, après, c'était des décisions de choix, quoi. Et donc, on a fait la maquette pour qu'il y ait vraiment du bilingue.
Ouais. D'accord, donc on a encore des choses là, à attendre.
Là, c'est énorme. Oui, non, c'est vrai. Il faut que je reprenne toutes les démarches pour trouver un éditeur pour ça. D'accord. C'est la première fois, en tout cas, que c'est un projet personnel. J'ai fait le texte, c'est pas un roman, mais il y a des annotations, des commentaires. Il y a des textes par-ci, par-là.
Merveilleux, est-ce que...
Il y a un peu de miniatures, très peu. Pour le coup, au début, il y a deux miniatures, mais après, c'est une façon de dire, ok, je fais la miniature, mais je vais vous montrer autre chose, quoi.
Bon, bah alors, on a beaucoup de choses à attendre de vous, Lorraine. Oui. Hein, vous êtes prolifique et dans plein de...
Ça reste, pour moi, je ne vois pas trop de différence. Enfin, la miniature, c'est un art très traditionnel, mais c'est quand même la même main qui travaille. Enfin, je ne vois pas vraiment...
Oui.
Je trouve une unité. D'accord. C'est vrai que quelquefois, des gens sont surpris, mais c'est vrai que mon professeur Abbas Mouayeri faisait tout. Il a réussi à créer, à innover en miniature, à créer quelque chose en peinture contemporaine. En sculpture, c'était très différent. Enfin,
et quand vous étiez en Arménie, est-ce qu'il y avait cette résonance avec la miniature?
Ah oui, quand j'ai visité le Matena Daran,
c'est ce que je me suis dit. Au Matena Daran,
je ne savais pas qu'il y avait une telle collection.
Ah, oui.
J'ai même eu envie de faire un stage chez eux, mais ranger des miniatures, les envelopper dans des tiroirs. Enfin, voilà, le minimum. Ouais. Parce que j'ai découvert que c'était une des plus grosses collections de manuscrits arméniens, persans, arabes. C'est magnifique. Et en plus, ce que j'ai vu en vitrine, je suppose que c'est
une petite quantité.
J'avais vu des reportages sur des restaurateurs dans leur laboratoire. Alors, j'ai pas la technique d'un restaurateur, mais j'aimerais un petit séjour dans leur réserve. Ah oui, carrément.
Je comprends.
Oui, j'avais pris des photos qui sont vraiment pas terribles, enfin qui ne rendent pas justice à la beauté des couleurs. Et là, pour revenir au pigment, on se rend compte que les artistes qui peignaient avec des pigments naturels il y a des siècles ont des couleurs éclatantes. Les miniatures indiennes, elles sont flashées.
Une maîtrise qui font que le papier ou le support.
Traité. Les papiers étaient traités, exactement. La peinture préparée. Voilà. Ah oui. C'est cette dimension technique aussi qui m'intéresse. Alors c'est vrai que ça peut paraître plus artisanal.
Moi je considère que c'est
beaucoup.
Une exploration.
Exactement.
Ouais. Une exploration, exactement. Une découverte. Et forcément, du passé, on trouve des choses qui nous portent vers de futures créations.
Récemment, je me suis mise à lire sur les pierres. Déjà, les pierres sont très intéressantes. À lire sur les pigments, sur la richesse des pigments, les origines des pigments, les pigments qui se mélangent, la densité. C'est super, c'est très très intéressant. Parce qu'en fait, on voit des pierres, on a tous des bracelets autour des poignets aujourd'hui de pierres semi-précieuses, mais de toutes ces couleurs, la plupart, on peut en faire des peintures et pour la miniature ou des encres pour la calligraphie, la calligraphie arabe et même, bien sûr, arménienne, persane. Enfin, à l'origine, ils utilisaient la nature, c'est très intéressant. Ouais, c'est très intéressant.
Bon, alors donc, vous avez encore plein de champs à explorer, chère Laurine. Et on attend d'en savoir plus.
Merci beaucoup.
Sur vos découvertes, puisque vous aurez envie de créer pour le public. Merci beaucoup.
Infiniment à vous.
Ben, je vous en prie. Et donc, on est pour ceux
24
qui le peuvent.
Août, oui, Paris, ça sera du 24 août au 4 septembre au pavillon d'Aviou. C'est dans le jardin du Luxembourg. Et ça sera tous les jours, dimanche inclus, la miniature persane au jardin du Luxembourg. Et c'est assez.
Et en hommage à votre
professeur.
Exactement,
Abbas Mouayeri. Et c'est aussi une façon de dire que la miniature peut continuer d'exister avec des sensibilités différentes. C'est un art vivant et qui est en France assez trop méconnu, je trouve. Oui. On va parler de la poésie, mais on ne parle pas des miniatures qui illustraient. On ne connaît rien sur la technique, Enfin, c'est tout un monde que j'ai envie de faire connaître.
Ben c'est bien que le Sénat illustre ce projet, et donc que ce soit dans un lieu emblématique.
Bien
le
sûr, bien sûr. Tout notre groupe d'élèves, là, c'était ça tombait du ciel. Pour moi, c'était vraiment un signe. Je l'ai perçu comme un signe du professeur qui nous encourage et un hommage, lui rendre honneur aussi.
Oui, mais pas dans on reste pas dans le passé, on reste.
Exactement.
Et puis
dans un jardin.
On le vit dans un.
Qui bourgeonne.
Voilà. Donc, et bien écoutez, ça va être un moment, je pense, très agréable. Merci beaucoup, Laurine.
Merci beaucoup.
Pour Radio Arménie.
Merci beaucoup.
Brigitte Leloir-Kerakian pour Radio Arménie.